Il est pour le moins paradoxal d'imaginer quelqu'un fonder tout un mouvement social et spirituel en se vantant d'être le disciple d'un criminel. Enfin, un criminel exécuté par l'État de la manière la plus humiliante possible.
Ah oui, complètement. Dans l'Antiquité, c'était même un suicide social absolu.
C'est ça. Promouvoir la croix, c'était vraiment s'associer à la lie de la société. Et pourtant, c'est très exactement ce qu'a fait l'apôtre Paul.
Et c'est vraiment le cœur de notre exploration d'aujourd'hui, pour le coup.
Exactement. Aujourd'hui, on plonge dans les notes de cours du docteur Craig Kinner, plus spécifiquement sa troisième session qui est consacrée à l'introduction de l'Épître aux Romains, chapitre 1, versets 2 à 17.
Un texte qui est franchement, qui est d'une densité incroyable.
Hein, c'est comme lire la lettre fascinante, mais super complexe d'un ami brillant. Chaque phrase contient un monde en soi, quoi. Et notre mission, pour ceux qui nous écoutent, bah, elle est ambitieuse.
Oui, on va essayer d'extraire le contexte historique de tout ça.
Voilà. Comprendre la nature radicale de ce message dans une culture obsédée par l'honneur et la honte, et puis redécouvrir le sens originel de mots tellement galvaudés comme, ben, comme foi et justice. D'accord, décortiquons tout ça.
Allons-y.
Par où commence un esprit aussi brillant que Paul lorsqu'il rédige l'introduction d'un tel chef-d'œuvre ?
Bah, en fait, il commence par asseoir une légitimité historique, mais d'une manière qui déjoue un peu les attentes. Avant même de déployer ses grandes thèses théologiques, il remonte à la source.
La source du message lui-même, tu veux dire ?
Exactement. Il veut établir d'emblée que ce qu'il appelle l'évangile, cette bonne nouvelle, c'est pas du tout une invention récente. Ou une petite secte dissidente qu'il viendrait de fonder, tu vois.
Oui, il veut pas passer pour un illuminé qui vient de créer sa propre religion.
C'est ça. Pour lui, c'est un mystère ancien, une promesse qui est vraiment tissée dans l'Ancien Testament. Le texte s'appuie sur des passages prophétiques précis, notamment Ésaïe 52, verset 7.
Celui qui annonce un messager apportant le salut et la paix, c'est bien ça ?
Tout à fait. Paul se positionne pas comme un innovateur, mais vraiment comme le messager final d'un plan hyper ancien.
Il angle donc son discours dans l'Antiquité pour lui donner du poids. C'était une valeur inestimable à l'époque d'avoir des racines anciennes.
Absolument. La nouveauté était super suspecte dans l'Antiquité.
Mais le sujet central de ce message ancien, ça reste Jésus lui-même. Et dans les notes de Kinner, on voit que Jésus est décrit sous deux angles très spécifiques.
Oui, deux dimensions qui se complètent.
Il y a d'abord une dimension qu'on pourrait dire charnelle ou ethnique. Jésus est présenté comme un descendant de la lignée royale de David. Et ensuite, il y a la dimension spirituelle. Il est déclaré fils de Dieu avec puissance par la résurrection des morts.
Et ce qui est fascinant ici, c'est la résonance immédiate que ça avait pour un esprit juif du 1er siècle.
Ah ouais ? Comment ça ?
Bah, la liturgie de l'époque nous apprend qu'il y avait une prière quotidienne centrale, la Shemona Esrei ou les 18 bénédictions.
D'accord.
Un juif pieux priait ça genre plusieurs fois par jour. Et cette prière célèbre explicitement un Dieu qui révèle sa puissance majestueuse, précisément à travers la résurrection des morts.
Donc, en gros, en associant l'esprit de sainteté, la puissance divine et la résurrection, Paul n'invente pas un nouveau jargon bizarre.
Pas du tout. Il s'empare d'un vocabulaire théologique de tous les jours, un truc super familier, et il l'applique directement à l'événement historique de Jésus.
Le terrain est donc parfaitement préparé. Il présente le Messie, il active les catégories mentales de son auditoire, et ensuite il parle de sa propre mission.
Oui, il affirme avoir reçu, je cite, « la grâce de l'apostolat pour amener l'obéissance de la foi ».
Et ça, cette expression, l'obéissance de la foi, il faut vraiment s'y arrêter. Parce que la conception de la foi chez Paul, elle est à des années-lumière de ce qu'on imagine aujourd'hui.
Ah oui, on a tellement déformé ce mot.
C'est clair. Aujourd'hui, on a l'impression que la foi, c'est juste une adhésion intellectuelle. Un peu comme, comme cocher une case sur un contrat d'assurance vie, tu vois.
Une assurance vie spirituelle.
Exactement. Tu coches la case, ta place au paradis est garantie après la mort, et entre-temps, ta vie continue sans aucun changement majeur.
C'est une dérive hyper moderne, ça. Séparer radicalement la croyance théorique de l'action pratique. Pour Paul, séparer les deux, ce serait un non-sens total. La foi biblique, elle est fondamentalement agissante.
Pour filer une métaphore, on pourrait dire que la foi, c'est pas simplement télécharger une nouvelle petite application sur son téléphone tout en gardant le même fonctionnement de base.
Non, c'est bien plus profond que ça.
C'est l'installation d'un tout nouveau système d'exploitation. C'est une réécriture complète du code qui modifie obligatoirement la façon dont la machine fonctionne au quotidien.
J'aime beaucoup cette image. Et le texte montre que ce processus a vraiment pour but de briser la domination du péché.
On parle pas d'une perfection instantanée, on est d'accord.
Non, bien sûr, loin de là. Mais c'est un changement de trajectoire qui est profond et incontournable. Et si on connecte ça à une image plus vaste, le but ultime de ce changement, ça dépasse largement le simple confort de l'individu.
C'est-à-dire ?
Quel est le but ultime selon l'analyse?
La finalité absolue de tout ce grand projet, c'est la gloire et l'honneur de Dieu. Une vie transformée devient en fait une démonstration vivante de la vérité divine. C'est puissant ça. C'est en restaurant son honneur au travers de vies changées que le Créateur attire toutes les nations. Mais ça me fait penser à un truc. Si cette mission a une portée mondiale, pourquoi Paul n'a-t-il pas encore mis les pieds à Rome au moment où il écrit ?
C'est une excellente question, surtout que Rome, c'était le centre névralgique de l'Empire.
La plus grande scène du monde. Qui sont d'ailleurs les destinataires de cette lettre dans la capitale ?
Alors, la démographie de l'Église romaine à ce moment-là est cruciale. L'auditoire est majoritairement composé de gentils, donc des non-juifs du culture gréco-romaine.
Mais il y avait des chrétiens d'origine juive aussi, non ?
Oui, il y en avait, mais il faut se rappeler le contexte politique de l'époque. L'empereur Claude avait expulsé tous les juifs de Rome en l'an 54.
Ah oui, le fameux décret.
Exactement. Et à l'époque de la lettre, ce décret vient juste d'être levé. Les chrétiens juifs reviennent dans une communauté qui, entre-temps, est devenue très majoritairement païenne dans ses habitudes.
C'est à ce public très mixte que Paul s'adresse, en les appelant des « saints appelés ».
Oui, et le mot « saint », il nécessite aussi d'être complètement redéfini.
C'est sûr. Dans notre imaginaire, un saint, ça évoque direct une statue de marbre dans une cathédrale, ou une figure d'une perfection morale complètement inatteignable avec une petite auréole.
L'étymologie grecque, le mot agios, ça raconte une toute autre histoire. Ça veut pas du tout dire moralement infaillible.
Ça veut dire quoi alors ?
Ça veut dire consacré ou mis à part. L'illustration la plus pertinente, ça vient du temple. Un ustensile du temple, par exemple, il n'était pas magique, il pouvait être en simple argile, tu vois.
Mais il était mis à part.
Voilà, il était agios. Il ne pouvait absolument plus être utilisé pour un usage ordinaire ou domestique. En appelant les Romains des saints, Paul leur dit que leur vie n'appartient plus à l'usage ordinaire du monde. Ils sont réservés au dessein de Dieu.
C'est un changement d'identité totale. Et sa façon de les saluer illustre bien cette fusion des cultures. Il combine charis, la grâce, pour les Grecs, et shalom, la paix, pour les Juifs.
Oui, il crée un vrai pont linguistique.
Par contre, il y a un aspect de son introduction qui m'interpelle. Il leur écrit qu'il a, je cite, « hâte d'être avec eux depuis longtemps ». Avec nos filtres modernes, on pourrait se dire qu'il essaie de les culpabiliser. Genre « Eh, vous m'avez jamais invité ?»
On pourrait le croire, ouais. Mais l'étude des correspondances gréco-romaines dissipe vite cette impression.
Ah bon ? C'est pas de la manipulation affective ?
Pas du tout. Exprimer un désir ardent de voir ses correspondants, c'était une convention épistolaire standard dans l'Antiquité. C'était une marque d'amitié, pas un reproche.
D'accord. Mais alors, pourquoi il a tant tardé ?
La véritable raison, c'est qu'il a été retenu par son travail acharné dans des régions non encore atteintes, comme les Balkans. Et pour expliquer cette urgence de prêcher, il se décrit comme un débiteur.
Un homme endetté envers les Grecs et les barbares. Et la notion de dette, aujourd'hui on pense à un découvert bancaire. Mais dans le monde antique, la dette c'était terrifiant, n'est-ce pas ?
Ah, c'était un mécanisme implacable. Ça pouvait détruire des vies et des villes entières. Dans certaines régions, les taux d'intérêt pouvaient atteindre 50%.
50%, c'est dingue.
Et dans une société agricole, si la récolte était mauvaise, un paysan devait emprunter. S'il ne pouvait pas rembourser, il perdait ses terres et ultimement, lui et sa famille étaient vendus comme esclaves.
C'est d'une violence inouïe. Et la culture juive, pour lutter contre ça, elle avait instauré l'année du jubilé, c'est ça ? Où les dettes étaient annulées.
Oui, l'année de relâche. C'était censé annuler les dettes. Socialement, c'était magnifique.
Sauf qu'en pratique, si l'année d'annulation approche, plus aucun créancier va vouloir prêter de l'argent.
Ben non, par peur de ne jamais être remboursé. L'économie entière menaçait de se figer.
Et d'affamer les plus pauvres.
C'est ça. Pour contourner ça, les autorités rabbiniques ont dû créer un mécanisme juridique complexe, le prosbule. C'était une faille juridique, une fiction légale qui permettait de transférer la dette au tribunal.
Ton prochain, mais parlez pas du tribunal.
Exactement. Ce qu'il faut retenir de cette ingénierie juridique, c'est que la dette était si vitale pour la survie qu'on modifiait l'application de la loi sacrée pour la gérer. C'est cette pression écrasante, cette urgence vitale, que Paul ressent au niveau spirituel.
Il doit sa vie à ce message, et il est dans l'obligation de le redistribuer. Et cette urgence l'amène à sa thèse centrale dans Romains 1,16, une phrase d'une audace folle, « Je n'ai pas honte de l'Évangile ».
C'est une affirmation qui, à l'époque, heurte de plein fouet les fondements sociologiques.
C'est le moins qu'on puisse dire. Aujourd'hui, on fonctionne sur la culpabilité intérieure, on se sent mal quand on transgresse ses propres valeurs. Mais le monde méditerranéen antique, lui, fonctionnait sur l'axe de l'honneur et de la honte.
La perception publique, le statut, c'était la réalité ultime.
Et dans ce monde hyper hiérarchisé, Paul apporte le salut par un gars qui a subi la crucifixion, une torture conçue par Rome non seulement pour la douleur, mais pour infliger une annihilation totale du statut social.
Le supplicié était nu, exposé publiquement. C'était tellement dégradant qu'on n'avait même pas le droit de crucifier un citoyen romain.
C'est ça. Et Paul, volontairement, s'associe à ça devant l'élite de Rome. Ça relevait de la folie pure.
D'autant plus que l'instinct de préservation face à la honte est super puissant. Le docteur Kinner, dans ses notes, raconte une expérience personnelle assez glaçante pour illustrer ça.
Ouais, j'ai vu ça. Qu'est-ce qui lui est arrivé ?
Quand il était jeune et qu'il prêchait dans la rue, il a été violemment battu et menacé de mort par des types sous l'emprise de la drogue.
Ah ouais, carrément.
Et raconte de manière très vulnérable qu'au-delà de la douleur physique, quand il s'est relevé devant les passants, ce qu'il a ressenti, c'était une honte profonde.
Bah, c'est biologique. Le rejet public déclenche la honte.
Absolument. Savoir théologiquement que souffrir pour ses croyances, c'est bien, ça n'efface pas le réflexe viscéral de l'humiliation. Ça montre vraiment l'extraordinaire résilience de Paul pour regarder l'instrument de torture le plus infamant et déclarer « j'en ai aucune honte ».
Et c'est ici que ça devient vraiment intéressant. Parce que, malgré cette résilience, sa méthode de déploiement pose question. Il dit « aux Juifs premièrement, puis aux Grecs ».
Oui, ça suit un peu le modèle de Jésus, comme avec la femme syrophénicienne.
Sauf que Paul, c'est l'apôtre des gentils. C'est sa vocation spécifique. Or, à chaque fois qu'il arrive dans une ville, il file direct dans la synagogue. Pire, l'histoire nous dit qu'il a reçu 5 fois les 39 coups de fouet par les autorités des synagogues.
C'est un détail crucial, ça.
Mais pourquoi subir ça? En tant que citoyen romain, il pouvait récuser cette juridiction et éviter le fouet. Pourquoi se laisser tabasser alors que sa cible finale, c'est le monde gréco-romain?
L'explication, elle est dans l'intelligence stratégique de son réseau. Refuser la juridiction en brandissant sa citoyenneté, ça lui aurait épargné le fouet, c'est sûr.
Mais
ça aurait signifié une excommunication immédiate. Il aurait été coupé de la communauté. Accepter le châtiment, c'était le prix à payer pour garder son droit de parole au sein de ses assemblées.
Parce que la synagogue, c'était le seul incubateur viable pour son message.
Exactement. Le monde gréco-romain polythéiste, ils n'avaient aucune notion de ce qu'était un messie souffrant.
Alors que dans la synagogue, le public possédait déjà les clés de lecture.
Voilà, il y avait les juifs de naissance et les craignants Dieu, les païens fascinés par le monothéisme. Tous connaissaient la Torah, Ésaïe, le lexique mental était déjà là. Paul savait qu'il devait convaincre ceux qui avaient déjà les fondations intellectuelles pour qu'ils deviennent les relais vers les païens.
C'était une manœuvre redoutable, assumée au prix de son propre sang. Et ce message qu'il déploie avec un tel acharnement repose sur deux concepts théologiques majeurs, la justice de Dieu et la foi.
Deux mots qui ont subi une sacrée érosion de sens à travers les siècles.
Alors, qu'est-ce que tout cela signifie vraiment, loin de nos conceptions modernes? Prenons la justice. Quand on entend « justice de Dieu », on imagine direct un juge sévère qui frappe de son marteau.
C'est l'erreur commune, ouais. Lire ce texte à travers le prisme de nos tribunaux modernes. Pour comprendre la justice, le fameux dikaios né grec, il faut se référer à la Septante.
La traduction grecque de l'Ancien Testament.
C'est ça. Et dans ce cadre, la justice de Dieu, c'est pas un code pénal strict. Ça désigne avant tout sa loyauté indéfectible envers ses promesses, sa fidélité à l'Alliance. Et un point fondamental, c'est que la justification par Dieu, c'est pas une simple fiction légale.
Attends. Quand tu dis fiction légale, tu parles de l'idée d'un juge qui ferme les yeux sur les preuves, déclare un coupable innocent sur le papier et le laisse partir sans rien changer d'autre?
Exactement. Un acquittement humain ne change que le statut légal. Mais l'action de Dieu, selon le texte, elle est créatrice. Un parallèle est établi avec la Genèse.
Quand Dieu dit que la lumière soit...
Voilà. La lumière reste pas un concept théorique, l'univers s'organise pour qu'elle jaillisse. De la même façon, quand Dieu déclare quelqu'un juste, un changement ontologique, réel, s'opère. La justification est indissociable d'une régénération de l'humain.
C'est un peu la différence entre un juge et un chirurgien, en fait.
Ah, j'aime bien cette analogie.
Bah, si un tribunal te gracie, ton casier est effacé, t'es libre, mais tu retournes dans la rue avec la même maladie morale, les mêmes addictions qui t'ont poussé au crime. Alors que la justice de Dieu, elle efface le casier et elle administre le traitement qui guérit la maladie.
C'est exactement ça. Elle répare la machine. Et la mécanique de cette guérison nous amène direct au second pilier, la foi pistis.
Paul cite le prophète Habacuc, « Le juste vivra par la foi ». Mais là aussi, il faut déconstruire nos préjugés, non ?
Complètement. C'est fascinant de voir comment la philosophie du 19e siècle a perverti notre lecture. Tu penses à Kierkegaard, par exemple.
L'existentialisme.
Oui, en réaction à une religion trop rationnelle, il a redéfini la foi comme une passion purement subjective, le fameux saut dans le vide.
Le saut de la foi. L'idée romantique mais super flippante qu'il faut débrancher son cerveau, ignorer les preuves et sauter dans l'obscurité en espérant que Dieu est en bas pour nous rattraper.
Et c'est devenu la définition populaire de la foi, croire sans preuve. Sauf que c'est l'antithèse absolue de la pensée de Paul.
Paul s'adresse à un monde gréco-romain sceptique. Il ne leur demande pas d'étendre leur cerveau.
Jamais. La foi biblique, c'est décrit comme un pas délibéré dans la lumière de la vérité. C'est une confiance rationnelle placée dans un Dieu qui a fourni des preuves tangibles dans l'histoire, avec la résurrection notamment.
Un examen des preuves qui aboutit à la confiance. D'ailleurs, il y a un détail libérateur sur cette confiance. On entend souvent l'expression « avoir la foi grosse comme un grain de moutarde ».
Oui, une image très connue.
L'idée, c'est pas de mesurer l'intensité psychologique de la croyance. C'est pas faire de l'autosuggestion en mode « je dois croire très fort ». Ce qui valide la foi, c'est la solidité de son objet.
L'objet compte infiniment plus que la quantité de foi.
Exactement. Une foi hésitante, minuscule et parfaitement suffisante si elle est placée dans un Dieu infiniment puissant.
Par la force de sa volonté intellectuelle.
Quelle trajectoire vertigineuse quand on y pense. On est parti d'une revendication d'autorité ancienne, on a exploré la mécanique écrasante de la dette spirituelle de Paul, on a vu la collision entre la croix et une culture obsédée par le statut.
Et on a vu sa stratégie périlleuse dans les synagogues.
Pour finalement redécouvrir une justice divine qui guérit et une foi qui réfléchit, loin du saut avable. Pour notre auditoire aujourd'hui, naviguer dans une mer de relativisme avec une telle conception d'une vérité solide, c'est un ancrage rare.
Tout à fait. Mais ça soulève une dernière question importante, un défi intellectuel qui clôture cette section de Romains.
Ah oui.
Juste après avoir exposé cette justice, le texte aborde le concept effrayant de la colère de Dieu. Sauf que l'analyse montre un paradoxe troublant.
À la colère de Dieu, c'est pas des éclairs vengeurs qui frappent depuis le ciel.
Non, justement, la forme ultime de la colère divine décrite par Paul, ça consiste simplement à livrer les humains à eux-mêmes, à les abandonner à leurs propres désirs et à leur folie morale, sans plus intervenir.
Attends, le Créateur retire simplement les barrières et laisse l'humanité avoir exactement ce qu'elle réclame ? Une existence sans aucune limite ?
C'est ça. La colère devient synonyme d'absence de restriction divine. Ce qui nous amène à cette réflexion finale assez vertigineuse.
Vas-y.
Si le jugement le plus sévère de Dieu, c'est de laisser l'humanité livrée à ses pulsions, libre de définir sa réalité sans contrainte. Ne serait-il pas possible que ce que notre modernité célèbre comme le sommet de l'autonomie absolue, le triomphe de s'autodéterminer, soit en fait la manifestation la plus pure de cette colère divine.
C'est une pensée profondément provocatrice, qui force vraiment à réévaluer nos valeurs les plus fondamentales. Et c'est toute la force de cette exploration. Une simple introduction écrite il y a 2 millénaires contient assez de profondeur pour ébranler les fondements de notre culture contemporaine. Ce sont vraiment des textes à ne pas survoler, mais à décortiquer encore et encore.